Bonjour, je suis Lise Gagnon. En 2008, alors membre de la rédaction de la revue de théâtre Jeux, je rencontrais Christian Frédéric, metteur en scène et directeur artistique de la compagnie Les Arts qui bougent, fondée à Bayonne en 1989. Depuis cette date, Christian Frédéric a produit 26 créations, signé 18 mises en scène et coproduit de nombreux spectacles. On se souviendra de ses mises en scène percutantes de La nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Coltès, de Big Shoot de Kofi Kwale et de Moitié-Moitié de Daniel Keen. Je rencontrai l'artiste à la suite de l'apparition de son livre À feu et à sang ou Le désir brûlant, paru à la pleine lune à la fin de 2007. Nous avons parlé de son récit qui navigue entre l'autobiographie et le journal de création et traite de son rapport à l'écriture, de l'importance du souvenir, des liens entre le théâtre et le sacré, de beauté, d'horreur, de désir. En 2010, Christian Frédéric nous reviendra à l'usine C avec sa dernière création, la pièce Jazz, une œuvre bouleversante de Kofi Kwale. On est ici au Café Rico, donc on va entendre sûrement des bruits du café, pour parler du livre À feu et à sang ou Le désir brûlant, un livre qui est paru à la pleine lune. On va surtout s'attarder à la première partie qui s'intitule Des fragments à jamais totalement retrouvés. Alors, première question, pourquoi avoir fait ce livre et pour qui avoir fait ce livre?
Alors pourquoi? C'était absolument pas prévu en fait, je devais pas du tout faire ce livre, c'est un journaliste qui devait faire ce livre parce qu'en fait, tout a commencé à cause de Judith Miller, qui est une grande traductrice francophone new-yorkaise et journaliste new-yorkaise, qui a eu une commande par une revue de Londres, parce que David Bradley, qui est un grand traducteur, notamment de Coltès à Londres, prend sa retraite en 2007, prenait sa retraite en 2007. Et il a été demandé à des journalistes dans le monde entier de faire des interviews d'artistes qu'ils pensaient, à leurs yeux, aux yeux de ces journalistes-là, qui pensaient être un peu les fils ou les filles spirituelles de David Bradley. Moi, je connaissais pas du tout David Bradley comme traducteur, mais j'ai eu un jour un coup de téléphone de Judith Miller qui m'a dit « Écoute, j'aimerais absolument écrire un article sur toi ». Alors j'ai éclaté de rire parce que je me suis dit « Mais pourquoi moi ?» Parce que je suis pas quelqu'un de connu. Et puis je lui dis « Il y a plein d'autres gens, il y a Olivier Py, il y a Pascal Rambert, de la même génération que moi, qui ont des théâtres, qui dirigent des théâtres ». Donc je comprenais pas trop. Et en fait, Judith, elle avait vu La nuit juste avant les forêts de Coltès, que j'avais mis en scène avec Denis Lavant. Elle avait vu Big Shoot de Kofi Kwale, que j'avais créé au de Denis Pelletier, puis après que j'ai repris à l'usine C. Et elle m'a dit non, c'est toi vraiment que j'ai envie d'interviewer parce que je pense que tu es un fils spirituel sans le savoir de David Bradley. Donc en fait, elle a commencé. On devait se rencontrer à New York, ça n'a pas été possible. On devait se rencontrer à Paris, ça n'a pas été possible. À Montréal, ça n'a pas été possible. Donc on s'est rencontrés par mail interposé. Et elle m'a posé des questions. Et donc j'étais complètement paniqué aux questions qu'elle me posait parce que j'avais vraiment le poids d'avoir cette femme qui était une histoire du théâtre, qui est quelqu'un qui a fait un livre sur Bob Wilson, qui connaît très bien Bob Wilson. Moi, Bob Wilson, c'est un de mes grands maîtres. Donc j'étais complètement paniqué par cette idée-là. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi tu te paniques? Si cette femme t'a dit qu'il fallait répondre, tu vas répondre le plus honnêtement possible. Donc j'ai répondu à cette interview. Et je l'ai envoyée en trois nuits. En trois nuits, quand tout le monde dormait à la maison. Il y avait quelque chose un peu de fantomatique de répondre à ça, un peu bizarre même. Et j'ai envoyé ça à Judith qui a trouvé ça pour elle passionnant. Et ça doit être édité actuellement. Je ne sais pas si le livre est encore sorti sur David Bradley, mais s'il n'est pas sorti, ça va sortir. Et donc j'ai cette chance d'avoir été interviewé autour de ça. Et cet article est tombé dans les mains d'un journaliste français qui a dit waouh, c'est assez génial parce que tu dis des choses que personne ne sait et que moi qui ai vu tes spectacles pas mal. Personne n'est au courant parce que c'est des choses, tu en parles jamais parce que tu... Et il me dit, moi j'aimerais bien faire un interview de toi, et puis voilà, et puis c'est parti comme ça. Il se trouve que moi je connaissais, j'avais rencontré Marie-Madeleine Raoult à une exposition où dans la galerie ou dans l'atelier de Louis-Pierre Bougie qui est un peintre de québécois, et puis parce que j'aime beaucoup la peinture et les arts plastiques. Et puis je lui dis tiens, il y a un journaliste qui veut faire ça, c'est rigolo, que, je sais pas si je vais répondre à ses interviews, qu'est-ce que t'en penses ? Et elle, ça l'a super intéressée. Elle a dit, bah écoute, mets-moi en relation avec lui, moi j'ai envie de faire l'édition. Voilà. Et puis le journaliste, en fait, je sais pas ce qu'il lui a pris, on a fait 90 heures d'interview, et il a jeté l'éponge pour des raisons personnelles, ou je sais pas quoi, mais il s'est pas senti capable parce qu'il y avait une date de sortie du livre qui était le 25 septembre. Et donc au mois de mai dernier, au mois de mai 2007, il déclare forfait. Et puis moi, je téléphone à Marie-Madeleine et je lui dis, bah écoute, ça va pas se faire parce que le journaliste, il fait forfait. Et puis moi, j'étais en pleine répétition, en plein montage de moitié-moitié. Et elle me dit, mais pourquoi tu l'écris pas ? Et je lui dis, bah, il n'en est absolument pas question, je ne suis pas écrivain. Et puis, il n'en est absolument pas question, quoi. Et elle me dit, mais si, il en est question. Parce que moi, j'ai le désir que tu l'écrives. Et je lui dis, écoute, tu t'es dingue. Et elle me dit, oui, mais je suis sûr que tu vas y arriver. Et bah, face à un désir comme celui-là de Marie-Madeleine, je dis, ok, bah, je vais essayer de le faire. Et je l'ai fait. Voilà. Et là, les ennuis ont commencé.
Ah oui ?
Oui, c'est vachement difficile.
Oui, ah oui, je sais. Écrire, c'est difficile. Ouais. Qu'est-ce que dit un livre que ne dit pas la mise en scène ?
Je sais pas. Moi, c'était très bizarre d'écrire ce truc-là parce que, je voulais pas, pour répondre à ta question de tout à l'heure, je voulais pas en faire un bouquin sur le théâtre. Mm-hmm. Pour les gens de théâtre initiés, faut dire que les gens de théâtre m'ennuient assez rapidement. Je veux pas faire de généralité parce qu'il y a des gens pas bien partout, mais le côté un peu, on fait partie d'une grande famille, j'y crois absolument pas. Je pense que il y a beaucoup trop d'ego mal placé dans notre métier. Allez hop, c'est parti, je suis de bonne humeur ce matin. mais ouais, faut dire un peu les choses, faut remettre un peu les choses. On sauve pas une vie au théâtre. Ouais. Même si on peut sauver parfois nos âmes, mais on sauve pas la vie. Et donc en fait, j'avais vraiment pas envie d'écrire quelque chose qui soit pour les gens de théâtre. Et puis je savais absolument pas par quoi commencer parce que j'ai un gros problème, c'est un problème de mémoire, de date. C'est pas une légende. Je sais jamais les dates. Je connais pas les dates. Je connais même pas presque les dates de naissance de mes filles. Alors tout le monde va trouver ça absurde. Oh là là, quelle horreur. Oh, c'est bien un mec. Mais non, mais moi je sais pas. Je sais à peu près l'année, mais pareil. Voilà. Bon, ça va, ça me rassure. Et donc en fait voilà. Donc c'est un problème quand on n'a pas de date. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que ça s'appelait Fragments à jamais retrouvés, c'est-à-dire comment se rappeler et quoi. Et de quoi se rappeler ? Alors moi, je sais que j'avais des odeurs, j'avais des souvenirs, j'avais des choses comme ça. Et puis, on ne sait pas les souvenirs, ce qui reste. Est-ce qu'ils sont vraiment réels ou est-ce que c'est un souvenir qui nous reste un souvenir ? C'est bizarre quand le temps passe, ce rapport avec le temps, avec le souvenir, avec l'autre. Avec, Donc, j'avais aussi pas envie de faire quelque chose qui soit une démonstration très impudique des gens que j'ai croisés dans ma vie. Donc, c'est pour ça qu'il y a très peu de gens cités. Mm-hmm. Et souvent, cités juste par leur prénom. Sauf quelques personnes un peu thématiques que je voulais vraiment nommer, mais d'une façon très pudique. Et puis voilà, je me commençais à me jeter là-dedans et à écrire cette première partie de bouquin qui était la plus dure à écrire. Parce que la deuxième partie, comme c'est vraiment une... je l'avais déjà écrit, la deuxième partie, parce que j'avais répondu, j'avais écrit un journal, dans un journal,
c'est ça,
voilà, en France, un quotidien, tous les jeudis, quand j'étais lauréat Médicis hors les murs, et c'est une sorte de montage qu'a fait l'éditrice, mais elle a fait un super montage, je trouve, parce que normalement, il y a 48 articles, elle n'a pas mis les 48 articles, mais donc c'est une sorte de carnet de voyage, mais la première partie, elle était plus intime.
Oui, mais c'est la plus importante aussi du livre.
Après, il y a des gens qui sont plus touchés par la deuxième que la Je sais pas, mais pour moi, ça a été la plus difficile à faire parce que de toute façon, je savais pas comment la faire, quoi.
Parce que moi, je trouvais que c'était pas un livre, pas seulement sur le théâtre, mais encore plus sur l'homme que vous êtes.
Oui. Plus encore. Bah, moi, j'essaie de faire un truc honnête, quoi. Oui. Moi, il y a une seule chose qui m'intéresse dans la vie, c'est l'honnêteté. Alors après, c'est vachement facile à dire. C'est pas parce qu'on le dit qu'on est honnête. Ouais. Et c'est pas parce qu'on a envie d'être un homme bien qu'on est forcément un homme bien. On est toujours le salaud pour quelqu'un d'autre. Mais j'avais vraiment envie d'être le plus honnête possible parce que de toute façon, écrire un livre, même si de toute façon personne ne l'achète et que je suis pas sûr que les gens le lisent, mais de toute façon, ça laissera au moins une trace à mes proches. Et puis c'est quand même les mots, ça reste gravé sur un papier et il y a quand même quelque chose d'assez. Ça me fait penser à Fahrenheit. C'est quand même, on se, dans une société où peut-être on interdira un jour les livres, on se souviendra de certains chapitres de l'idiot de Dostoïevski, on les apprendra par cœur, comme dans Fahrenheit. Oui. Un bouquin, c'est quand même assez extraordinaire, c'est un rapport avec le temps assez extraordinaire. Oui. Donc de coucher des choses comme ça sur un papier et de savoir que quelque part, même s'il y en a un seul qui reste, ça restera. C'est un rapport avec le temps, avec la mort, avec l'espace. Oui. Et avec la trace aussi, qui est indélébile, une phrase écrite, c'est une phrase qui reste. Quoi.
Oui.
Et
qui
est assez troublante, quand même. C'est troublant d'écrire. Enfin, oui. Moi, j'ai découvert ça parce que j'avais jamais écrit. J'avais adapté des trucs avec d'autres gens à quatre mains. Mais j'ai toujours écrit à quatre mains, mais j'avais jamais eu ce rapport à l'écriture.
Oui.
Qui, moi, m'a complètement paniqué, totalement paniqué. J'ai vraiment eu beaucoup de... Même je me suis perdu dans cette écriture à un moment donné. Il a fallu que je parte à Sutton pour aller finir mon truc dans un chalet parce que je voulais absolument pas finir le 14 juillet. Je déteste la fête nationale française. Je déteste de toute façon tout ce qui est nationaliste et surtout le drapeau français entre autres et pour plein de raisons personnelles. Et j'étais perdu dans tout ça parce que j'étais en même temps cette notion d'être ailleurs, d'être... émigrer quelque part à un moment pour écrire et voilà donc voilà.
Oui. Ce qu'on lit dans le livre, vous faites part souvent de vos inspirations.
Ouais.
Il y a beaucoup de références au cinéma, aux acteurs, aux arts visuels, à Giacometti, au film Bird de Eastwood. Est-ce que vous pouvez parler de l'importance de ces arts-là dans votre démarche?
Pour moi, c'est essentiel de... D'abord, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, je me suis retrouvé... Il y a eu des gens qui m'ont vraiment apporté des choses. D'abord, j'ai jamais beaucoup voyagé quand j'étais jeune pour des raisons économiques. J'ai commencé à voyager tard. Et en fait, j'ai commencé à voyager pour aller découvrir des choses que Giacometti avait découvert dans sa jeunesse. Quand Giacometti était parti à Venise pour aller découvrir Tiepolo Véronèse, je suis parti à Venise pour découvrir Tiepolo Véronèse. Quand Giacometti est parti en Europe, je suis allé sur la trace de Giacometti.
Ouais.
Pourquoi? Je sais pas. Parce que Giacometti m'a tout de suite. C'est quelqu'un qui m'a tout de suite dans ses dessins, dans ses écrits. On sait très peu, mais il a beaucoup écrit dans ses sculptures. Il m'a tout de suite bouleversé. C'est pas forcément explicable pourquoi quelqu'un te bouleverse ou pas. Et puis, comme je suis assez radical, je suis allé voyager par rapport à ça. Et puis, il y a des gens que j'ai croisés dans ma vie. Pour moi, l'éternité, c'est quand on reste dans le souvenir de quelqu'un ou quand on apporte quelqu'un et qu'on est encore vivant. Et Giacometti, pour moi, est un de mes maîtres, comme effectivement Charlie Parker aussi, ou comme Mohamed Ali. Ali, il n'y a pas un moment où je ne pense pas à Mohamed Ali. L'autre jour, j'y pensais encore. J'en discutais même en Suisse de Mohamed Ali. Pour moi, c'est quelqu'un qui m'a énormément... Et qui actuellement, avec les troubles que je suis en train de vivre dans mon travail et dans mon combat avec l'État français, heureusement que j'ai cette présence de Mohamed Ali qui fait que je ne lâche pas... J'essaie de pas lâcher prise au moment où tout le monde lâcherait prise, je pense. Voilà. Alors après, je pense que toutes ces influences, et puis je crois que les influences aussi, elles viennent, elles sont pas tout à fait raisonnées. Je pense que c'est des œuvres aussi. Quand je découvre une œuvre théâtrale, quelle qu'elle soit, ou une forme, quelle qu'elle soit, il y a des œuvres, il y a des choses qui m'ont croisé dans ma vie ou que j'avais même pas emmagasiné, même pas, qui vont d'un seul coup se réveiller à moi et à travers une œuvre. Et c'est vrai que j'ai j'utilise plus le cinéma pour communiquer avec mes équipes de concepteurs ou mes comédiens, c'est pas mes concepteurs, mais avec les gens avec qui je travaille. J'utilise plus le cinéma parce que c'est plus facile, le cinéma, de communiquer en parlant de cinéma. Parce que quand tu vas communiquer autour d'un trailer, et tu dis, voilà, est-ce que tu as vu, je dis n'importe quoi, parce que t'as vu La Locandiera, s'il a monté La Locandiera, montée par trailer. T'as très peu de gens qui ont vu La Locandiera montrée par Scheller. T'as 40 000 personnes qui l'ont vu dans le monde. Quand tu vas dire, est-ce que t'as vu Paris, Texas de Wenders, même si les gens l'ont pas vu, ils ont une odeur, ils ont une image, ils ont une sensation, ils ont un souvenir. Un souvenir d'une bande-annonce, un souvenir de quelque chose. Et puis ils vont trouver le DVD. Donc ils vont être capables de dire ah oui d'accord, il parle de Wim Wenders, il parle de Paris Texas parce que il parle de ces binaires, de cette lumière dans, ou de ces avions qui passent pour moitié moitié. Mais c'est souvent une œuvre qui me, parce que quand je lis une œuvre en fait, c'est ce que je dis dans le bouquin, à un moment je la laisse reposer et je laisse qu'elle s'impose, qu'elle impose des univers, qu'elle me réveille des univers à moi. Pour moitié-moitié, ça m'a fait penser tout de suite à Ken Loach, à Wenders, ce qui paraît évident pour les Européens qui le voient là. Quand je parle de, après, quand ils découvrent que je parle de Wenders, quand tu vois le spectacle, ils disent mais oui, c'est évident. Il y a un article dans la Tribune de Genève qui parle de cet univers cinématographique qu'ils voient dans le spectacle. Mais je pense que c'est pas évident pour tout le monde, mais qu'importe, c'est pas important même de savoir comment les choses sont venues. Mmh. Mais c'est vrai que c'est souvent des œuvres, les œuvres elles-mêmes, qui vont me rappeler des choses que j'aurais croisées sans m'en rendre compte ou en m'en rendre, et que j'aurais enregistrées. Je pense qu'on n'est qu'un arbre et on est formé d'une écorce. Oui. Bon, c'est très Nietzschéen ce que je dis là, mais on est formé d'une écorce et de racines, et puis on essaie de s'élever tant bien que mal. Comme les personnages de Giacometti, ou comme l'arbre de Nietzsche, on essaie de s'élever vers le haut ou de s'élever, je sais pas où. Parfois, on est un peu croche, mais on est formé d'écorce et cette écorce, c'est tout ce qu'on croise dans notre vie et les gens et les êtres et une personne dans le métro qui va te faire comprendre pourquoi tu comprends où tu trouves la fraternité dans le sang et dans le goût du sang et tu t'aperçois que t'es un vampire, mais tout ça fait aussi que à des moments ça trouve son sens parce que une œuvre va te rappeler quelque chose et ou va te ramener à quelque chose que tu avais enfoui au plus profond de toi-même. Ouais. Mais le cinéma c'est pratique pour communiquer. Oui. C'est très pratique pour communiquer. Mm-hmm. Je trouve que c'est très pratique.
C'est l'identification qu'on a.
Oui, et puis c'est pratique parce que le cinéma, quand tu dis à n'importe qui, je sais pas, tu vas lui dire, moi dans la scène de Lawton, la nuit du chasseur, quand il est dans sa chambre avec ses ombres portées, ce côté, tu dis ça à un éclairagiste, il va chercher un DVD à la boîte noire ou ailleurs, s'il est en France, il va ailleurs le chercher, mais il va regarder ça, ça va lui parler. Et il va dire ok, je vois où il va aller, ou dans l'odeur, dans la couleur où il va aller, ou dans, et c'est très pratique parce que ça donne une rapidité de et puis le cinéma c'est une chose qui est plus, malheureusement quand on fait un mauvais film il y a minimum 500 000 personnes qui le voient, au minimum.
Ouais.
Quand on fait un chef-d'œuvre au théâtre, il y a 40 000 personnes. Strehler, 40 000 personnes. C'est Strehler qui disait ça.
Oui.
Il le disait très très bien. Il disait, vous savez, moi, quand je fais un spectacle à la Fenice ou n'importe où, il y a quoi, 400 personnes tous les soirs qui vont venir voir. Je vais faire 20 représentations, ça va faire 8 000 personnes, 10 000 personnes. Et puis je vais partir en Europe, je vais faire 40 000. Mm-hmm. Et c'est un des plus grands.
Et puis pourquoi vous avez choisi le théâtre plutôt que le cinéma ?
Je sais pas. Et c'est Enki Bilal qui me dit qu'il faudrait absolument. Il y a quelques farfelus comme ça, comme Enki Bilal, comme Kofi Koulé, qui veulent absolument que je fasse du cinéma. Je pense que je suis incapable de faire du cinéma.
Oui.
J'en ai fait en tant qu'acteur. Peut-être que j'en referai en tant qu'acteur. J'adorerais, moi, recommencer à jouer. Mais moi je pense beaucoup à la, je crois que c'est les rencontres qui se font. Peut-être qu'un jour quelqu'un me proposera de retravailler sur un plateau ou dans un film. Je me sens prêt maintenant à le faire, mais j'ai failli être assistant au cinéma, ça s'est pas fait. Je pense que si ça s'était fait, peut-être que ma vie aurait totalement changé. Je dis pas que je ne ferai jamais de cinéma, mais moi, ce qui m'excite, c'est de me servir de la technique cinématographique au théâtre pour un acte vivant.
Oui.
Parce que le cinéma, après, on monte tout ça, on fait l'étalonnage, on fait tout ça. Et puis après, c'est un objet qui reste, qui ne bouge pas. Le théâtre, ça bouge tout le temps.
Oui.
Même s'il y a une précision, il y a une recherche de la précision, il y a une recherche de la partition chaque soir. Parce que pour moi, tout doit être écrit au théâtre, mais c'est vivant. Ça reste un moment de rencontre.
Oui.
Et ça, pour moi, c'est ce qui m'éclate le plus. Quoi. Voilà.
Oui. Okay. Le livre ouvre un peu sur votre découverte du théâtre. C'est un passage, je trouve, qui est important. Enfin, là. Puis vous écrivez, puis la nuit qui a suivi s'est transformée en ténèbres. Puis là, vous décrivez le viol du chat par le légionnaire dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs.
Ouais.
C'est une scène qui est tellement violente, mais qui va, je trouve, en tout cas, qui donne le ton, puis qui va comme toucher toute notre lecture. Notre lecture va être contaminée par cette scène-là. Je veux dire, je ne peux pas lire le livre autrement qu'en ayant vécu la scène là, que vous décrivez, parce que c'est presque au début du livre.
Hein. Bah, tant mieux, parce que c'est un... Moi, quand j'avais vécu cette histoire-là, ce moment-là dans ma vie, je m'étais dit, je le mettrais justement dans un film ou je le mettrais dans un spectacle de théâtre. Peut-être qu'un jour, je le mettrais dans un spectacle de théâtre.
Mais pas avec un vrai chat.
Bah non, mais forcément, mais tout est faux au théâtre, même ouais. si on arrive à faire croire que c'est vrai, et même si de toute façon, ouais. le théâtre, c'est pas de la vérité, c'est une représentation de la vie. Mais c'est vrai que pour moi, c'est une scène qui... C'est un moment de vie important parce que c'est... Dans l'horreur, il y a des limites. Et même dans les mondes parallèles, ou dans le monde de la nuit, ou dans les mondes que... On a des règles. Et des fois, les règles sont dépassées. Et même dans, des endroits où on pense que... Où les règles sont poussées loin, hein, je veux dire, où la façon d'aborder l'autre, le désir, la sexualité, la drogue, ou autre chose, va ailleurs, avec d'autres choses, avec d'autres règles, avec d'autres normes, avec d'autres façons de s'aborder, de se désirer, ouais. de se manger, de se sucer, de jouir. Il y a des règles, il y a des lois, et il y a des choses qu'on ne peut pas aller au-delà. Et des fois, l'horreur va au-delà. Alors bon, celle-là, c'est un chat, mais ça peut être aussi, j'aurais pu raconter quand je suis allé à Sarajevo, mais ça, c'est une partie de ma vie, et que j'ai accompagné un convoi où j'ai vu un camarade de convoi se faire tuer devant moi. Mais je dirais, il y a des moments où, comme ça, on est face à l'horreur, et cette horreur, elle va percuter même nos fondations, et elle va peut-être mettre, si on l'avait pas rencontré, cette horreur-là, peut-être qu'on n'aurait pas bougé autant, ou peut-être qu'on n'aurait pas... Je ne veux pas dire qu'il faut rencontrer l'horreur pour bouger, c'est pas ça, ça serait terrifiant de dire ça. Je le souhaite à personne, pauvre chat, ou pauvre même légionnaire, quelque part. Quelle solitude, quelle affreuse solitude doit être la tienne. C'est Scipion qui dit ça à Caligula. Mais c'est vrai que je pense que ce moment d'absurdité de l'humain et cette absurdité, quoi. Cette violence absurde et gratuite, elle a été un moment charnière.
C'est ça, oui, ouais, parce que voilà. C'était vraiment ce qui a fait que vous avez abandonné cette vie.
Oui, je pense qu'il y a plein de choses qui font que c'est ça, mais qu'à un moment donné, dans ce que je raconte, dans ce livre, je le matérialise par cette histoire.
Oui.
Mais c'est vraiment ça qui a fait que... On ne sait jamais, mais c'est sûr. Oui. C'est ça le propre de l'histoire et de l'écrit et du souvenir. Mmh. C'est que... quelque part, c'est sorti comme ça, mais c'est à mon avis, si on avait une vraie analyse allongée sur un divan, on s'apercevrait que c'est plein d'autres choses. Mais est-ce qu'il faut vraiment s'allonger toujours sur un divan? Je ne sais pas.
Oui.
Moi, ce n'est pas un truc. C'est pas mon truc.
Oui. Une chose aussi qui est très présente dans le livre, c'est l'importance du sacré. Comme vous parlez de la rencontre avec Jacques Flon, vous dites « J'entrevoyais qu'il existait un espace sacré. » Ensuite, le septembre de vos 25 ans, où votre vie bascule, où un médecin vous dit que vous allez mourir. Et que vous vous retrouvez dans un monastère alors que vous n'êtes pas croyant. Et vous écrivez, c'est une découverte essentielle. Grâce à ce séjour, j'ai pris conscience qu'il y avait en moi un besoin de sacré. Et ensuite, plus loin dans le livre, vous parlez aussi du mouvement, de la perte d'équilibre, du vide. Puis là, vous écrivez là où le sacré reprend sa place et que bouger, c'est aussi faire la nique à la mort. Comment le théâtre rejoint le sacré pour vous?
De toute façon, je pense que le...
Bonjour, je suis Lise Gagnon. En 2008, alors membre de la rédaction de la revue de théâtre Jeu, je rencontrais Christian Frédéric, metteur en scène et directeur artistique de la compagnie Les Arts qui bougent, fondée à Bayonne en 1989. Depuis cette date, Christian Frédéric a produit 26 créations, signé 18 mises en scène et coproduit de nombreux spectacles. On se souviendra de ces mises en scène percutantes de La nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Coltès,